Vous êtes sur Flat Film Radio avec Bénédicte Pro qui vous parle de la croisette du 68e Festival de Cannes. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Miguel Gomez. Bonjour.
Bonjour, on fait un petit tchin-tchin pour la radio.
Allons-y. Miguel, vous venez de nous faire vivre, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, une véritable épopée, un véritable parcours en trois films. Les Mille et une nuits se composent en effet de trois volumes, assez différents entre eux, qui sont tantôt allégoriques, tantôt fantasques, tantôt anecdotiques, féeriques, ironiques, toujours très gomésiens. Et tous ces récits emboîtés, dans vos Mille et une nuits, s'inspirent de faits divers, réels, qui ont été recueillis par trois journalistes. Comment vous décririez-vous ce parcours et pourquoi avez-vous choisi de transformer ce projet, d'en faire un triptyque?
Parce que c'était trop. Moi, j'avais signé un contrat avec mon producteur qui disait, c'est ma faute, hein. J'ai dit, mais un truc dans les contrats qui dit, moi, je ne peux pas dépasser 3h30 des films. Et après, on a signé ça. Donc, il peut me mettre au tribunal si moi, je dépasse 3h30. Et donc, j'arrivais pas à couper. Je pensais que pour faire un film qui s'appelle Les Mille Nuits, il faudrait avoir précisément ce que tu es en train de me dire. Donc, des choses très différentes, des registres différents, des personnages différents, des récits différents. Et donc, comment mettre ça à 3h30, que c'est déjà beaucoup quand même, non? Et alors, j'ai eu une idée. C'était pendant le montage, je l'appelais, le producteur, je l'avais dit, écoute, calme-toi, on va pas y passer de 2 heures. Ça, un petit peu. Mais c'est pas un film. C'est trois films. Trois films. Donc ça donne 6 heures de film. Donc il y a un film de 6 heures. Mais on dépasse pas ce qu'on avait signé dans le contrat parce que c'est beaucoup moins de 3h30. C'est 2 heures chaque volume et c'est 3. Le premier s'appelle L'Enquier, le deuxième s'appelle Les Désolés et le troisième s'appelle L'Enchanté.
Donc on va vers l'enchantement. Quelle progression, quel parcours voulez-vous faire en faisant cet ordre-là?
Alors, on a mis, quand on était en train de monter ça, le film, on a compris qu'on pouvait avoir un premier volume un peu lié à l'enfance, je crois. Il y a quelqu'un du Banque Centrale Européen qui a un flashback à cause de questions de sexe, mais qui a un flashback de comment il a mis son doigt dans un trou. Et après, il y a un coq qui raconte une histoire d'amour avec des enfants. Et après, il y a un réalisateur qui est si enfantin qu'il s'échappe parce qu'il a trop de soucis. Et après, il y a un syndicaliste qui a un projet politique très bizarre parce que ce qu'il veut, c'est de mettre tous les chômeurs apprend à se jeter sur l'eau dans la plage le 1er janvier. Donc, comme projet politique, c'est un peu... Et donc, il y a des choses qui sont angoissantes dans les premiers volumes, mais qui sont très liées à l'enfance, un père enfantin des choses. Et après, un deuxième volume où le personnage du film, qui c'est pas un personnage individuel, c'est un collectif, c'est les Portugais, il passe déjà à un autre niveau, peut-être plus sombre, ou tragique, où je pense qu'il y a moins d'espoir, où il y a une juge qui est incapable de condamner quelqu'un parce que finalement tout le monde n'est pas coupable et coupable en même temps. Il y a un criminel qui a tué des gens il est partout au Portugal, il a même les pouvoirs pour faire la téléportation. Il le seul personnage qui va bien, c'est un chien. C'est un chien qui pouvait jouer dans un film de Walt Disney. Et finalement, il avait la malchance d'être né au Portugal. Donc, autour de lui, tout est un peu compliqué. Mais le chien, il va bien parce qu'il est un chien, il n'a pas la même conscience que les autres.
Il joue parfaitement bien, ce chien. D'ailleurs, il est lumineux.
C'est un chien qui était primé. Hein. J'ai déjà entendu des échos que ce chien, il va être primé demain. Je te dis, c'est un scoop. Donc, le chien... Apparemment, il va gagner la Palme d'Or. Je savais même pas que ça existait, mais c'est pour le meilleur chien des films qui est présenté à Cannes. Et ce chien, il est jugé par ses jurys de Palme d'Or comme le chien plus, c'est comme le Dustin Hoffman des chiens ou comme Al Pacino des chiens. Et donc, il va avoir un prix comme meilleur acteur chien des films à Cannes.
Je regarde le Benfica parce qu'on parle du quartier, un quartier des plus pauvres qui est un bidonville à côté de Lisbonne qui s'appelle Boa Vista et qui est aussi qui est un des bidonvilles les plus connus de la capitale. Et où on se retrouve d'ailleurs dans le troisième volet du coup.
Le troisième volet, c'est une autre chose. Parce que je pense que chaque film est fait un peu en réaction à l'autre. Jusqu'ici, je faisais des films, des longs métrages qui n'étaient pas des films qui étaient linéaires parce qu'il avait toujours un moment où il avait une deuxième partie qui répondait, qui faisait une réaction à ce qui existait avant. Les films que j'ai fait avant, qui s'appelaient Les Tabous, il avait une histoire d'immeuble avec des vieilles dames. Et après, soudainement, il avait une sorte de flashback où on était en Afrique 5 années avant. Et donc, tous les films changeaient à cause de ça. Et moi, je trouve que dans ces films, c'est pas la même question. Mais je dirais que chaque volume, qui c'est vraiment 3 territoires différents avec des logiques, enfin, des états d'âme différents. Et donc le troisième, c'est une réaction à tous ces côtés plus tragiques du deuxième. Et donc il s'agit des histoires de Bagdad, mais c'est Bagdad où habite Sherazade, ça se passe à Marseille. Donc je sais que c'est pas très normal. Enfin, j'ai un peu la notion que Bagdad c'est un désert et il y a de la mer à Marseille. Mais enfin, c'est mon film, donc j'ai pas décidé d'ajouter la mer à cette Bagdad et à cette Sherazade. Et c'est un film plus aérien, je crois, où il y a aussi des gens qui venaient des bidonvilles précisément. Donc on essaye de faire une sorte de bilan pour les gens des prolétariats portugaises dans les dernières années. Et donc ce qu'on voit faire ces gens, c'est pas faire la révolution, même s'ils habitent dans des conditions un peu misérables, mais ils se dédient à une activité très bizarre. Essayer de faire apprendre à des oiseaux à chanter pour des compétitions des oiseaux.
Vous avez effectivement tendance à aller vers le merveilleux, le fabuleux, mais il est très difficile de raconter vos films parce que vous explorez justement la narration. Donc au lieu de vous demander comment, en partant à chaque fois du réel, parce que c'était déjà le cas dans Ce cher mois d'août, c'était déjà le cas, comme vous le disiez, dans Tabou, vous partiez en fait du réel, et il y a comme ça, comme une évasion qui se produit, eh bien je vais vous poser la question à l'envers et vous demander comment ça se fait que finalement tous ces contes merveilleux et pas toujours connectés à apparemment au réel, en fait, ont toujours un ancrage dans la réalité. Et ici, plus que tout, puisque vous avez quand même choisi de nous avertir au début de chaque film qu'on parlait bien du Portugal d'aujourd'hui, qu'on parlait d'un Portugal paupérisé et affecté par des lois d'austérité votées par un gouvernement que vous accusez assez directement à chaque fois.
Ce qu'on peut dire sur la réalité, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est si réel que le réel. Enfin, les choses qui se passent vraiment doivent être complémenté, on doit avoir aussi les choses qui viennent des désirs et des parts des gens. Donc ça veut dire pourquoi pas avoir les choses qui se passent, les gens qui sont affectés, qui sont affligés par des choses réelles qui se passent dans sa vie, mais aussi les peurs et les désirs que ces gens ont. Donc ça veut dire il faut avoir les choses qui se passent, les choses que les gens ont peur que se passe et les choses que les gens ont envie que se passe. Et ça, c'est vraiment les présents.
De film en film, alors que vous n'êtes plus un nouveau réalisateur, vous avez toujours l'approche de la candeur. Vous vous présentez toujours comme un cinéaste qui essaye de faire un film. Et il y a comme ça tout un foisonnement d'idées, comme un dispositif en fait que vous déployez chaque fois, qui vous donne la possibilité de foisonner, de fourmiller, alors qu'en fait, on a l'impression que tout ça est quand même très maîtrisé et très contrôlé aussi.
Pour moi, la question de cinéma, c'est que me donne envie de faire, c'est précisément d'essayer de perdre un peu de contrôle, parce que je pense parfois les films sont moins vivants, disons. C'est moins vivant parce qu'il y a trop de maîtrise, enfin trop de contrôle. Donc tout, a priori, c'est déjà réglé. Et je pense que ça, c'est un peu malhonnête. Et je pense qu'on doit partir d'une autre condition qui c'est, on va essayer de négocier avec les gens avec qui on filme, les acteurs, les histoires qui on va prendre, tout ça, mais qu'il faut négocier en direct, pendant. Ça, c'est la chose à faire. Et je ne peux pas faire autrement. Donc, j'essaie de perdre un peu de contrôle. Et après, j'essaie de regagner le contrôle. C'est ce que je pense qu'on doit faire quand on peut faire des films. C'est pas...
ouais, et d'ailleurs, vous le faites à la fin en annonçant, enfin, à votre spectatrice idéale qu'elle pourra en faire ce qu'elle voudra, qu'elle le regardera quand elle voudra, ce film. Enfin, ces trois films.
Oui, ça me dépasse, non? J'ai fait trois films, j'ai dit au producteur, excuse-moi, j'étais pas capable de faire ça dans un seul film. Et donc c'est trois, mais c'est un. Et maintenant, débrouille-toi. Je suis sûr, j'ai fait de confiance à toi, je suis sûr que tu feras ton mieux.
Merci beaucoup, Miguel Gomez.
On finit avec un autre chin-chin.
Merci.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.